Marion Ferrer.
Bonjour à tous. Mayotte, impossible de quantifier les dégâts sur place après le passage du cyclone et les secouristes vont avoir beaucoup de mal à se déplacer auprès des sinistrés. La ferveur en Corse, le pape François doit arriver sur place ce matin pour une visite historique alors qu'il a boudé Paris et Notre-Dame la semaine dernière. Et puis la e-cigarette, est-ce une bonne idée pour arrêter de fumer? Eh bien non, explication dans ce journal. L'inquiétude après le passage du cyclone Chido à Mayotte, des vents d'une violence inédite depuis 90 ans ont balayé l'archipel hier. Les habitants, les élus locaux, tous décrivent un véritable chaos sur place et pour l'instant impossible de dresser un premier bilan. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau s'est exprimé tard hier soir après la cellule de crise.
Aucun bilan pour l'instant. Ce sont des bilans très très provisoires, de quelques morts, vous l'avez annoncé. Hors de question aujourd'hui de prononcer des chiffres dans la mesure où pour faire un bilan, on doit être en mesure d'aller sur le terrain, d'inspecter les gravats, d'inspecter cet habitat précaire qui a été totalement détruit. Ça sera que dans quelques jours, dans quelques heures, mais ce bilan, il faudra sûrement des jours pour pouvoir l'affiner. Nous craignons qu'il soit lourd, mais pour l'instant, je ne prononcerai aucun chiffre parce que personne est capable de savoir évidemment ce qu'il en est exactement.
Et Bruno Retailleau se rendra sur place dès demain. 800 membres de la sécurité civile vont être envoyés en renfort d'ici mercredi, accompagnés de matériel et de personnel médical. Mais dès aujourd'hui, 250 militaires et sapeurs-pompiers vont être déployés sur zone. Mais les opérations de secours s'annoncent très complexes, Laurent Kramer.
Intervenir à Mayotte représente un défi logistique majeur avec peu d'accès direct, un aéroport qui se situe sur l'île de Petite Terre, sans accès direct à la Grande Terre, une piste courte qui est aujourd'hui largement impraticable. Des militaires français sont sur place pour évaluer quel avion pourra s'y poser. Une fois l'aéroport de nouveau en fonctionnement, il faudra ensuite prévoir des navettes fluviales pour acheminer tout ce matériel et les moyens de secours aux endroits les plus dévastés de l'île, une île qui ne dispose pas de grandes routes praticables à l'intérieur des terres. Là aussi, le travail des secouristes s'annonce difficile. Des modules médicaux et des hôpitaux de campagne militaire sont prêts à décoller pour se substituer à l'hôpital de Mayotte, lui aussi touché par le cyclone.
Les précisions de Laurent Kramer. La Corse s'apprête à vivre une journée historique. Le pape François doit atterrir d'ici une heure environ à Ajaccio pour une visite d'une journée, la toute première sur l'île pour un souverain pontife. Ce choix, une semaine après son absence à Notre-Dame, a suscité des incompréhensions en France. Bruno Duvic, quel est le programme et le sens de cette visite ?
Donner une image joyeuse de l'Église, montrer que sa force vient de la base. Voilà les objectifs de cette visite, la troisième en France. C'est un record en dehors de l'Italie, même si à chaque fois le pape en a minimisé la portée symbolique. Dès son atterrissage à 9h, François aura une idée du climat politique. Les ministres démissionnaires de l'Intérieur et des Affaires étrangères doivent l'accueillir. Un tour en papa mobile, puis le colloque sur la religiosité populaire, but officiel du voyage. Dans cette ville où la procession a la Vierge est incontournable au mois de mars, il trouvera de quoi illustrer son propos. D'ailleurs, il ira saluer la statue de Marie, la Madonnuccia, près de la cathédrale, juste après. Une pause à la mi-journée pour le pape qui aura 88 ans mardi. Il est le plus vieux pontife à voyager. Puis en voiture au milieu de la foule pour aller célébrer la messe en plein air, au bord de cette Méditerranée si importante pour lui, le climat, les migrants, le mélange des civilisations. 17h30, la rencontre avec Emmanuel Macron, la sixième, pas la plus chaleureuse sans doute, après l'absence de François le week-end dernier à Notre-Dame.
Bruno Duvic. Et justement, les températures glaciales ne freinent pas les départs en mer. Plus de 200 migrants ont été secourus en seulement 2 jours au large de Calais. Tous ont tenté de rejoindre l'Angleterre sur des canaux de fortune, selon la préfecture maritime. Depuis le mois de janvier, au moins 73 personnes sont mortes en mer essayant de traverser la Manche clandestinement. Un triste record, selon la préfecture du Pas-de-Calais. La e-cigarette est-elle un bon outil pour arrêter le tabac? Question que se posent tous les fumeurs. Eh bien, une étude vient de montrer que ceux qu'on appelle les vapofumeurs arrivent en réalité bien moins à se sevrer du tabac. Cet article publié ce mois-ci dans le journal de la Société européenne de pneumologie a compilé 16 études existantes et il montre, Tara Schlegel, que les vapofumeurs retombent rapidement dans le tabagisme.
Les chercheurs de l'université de Göttingen ont en effet étudié le décrochage du tabac à court, moyen et long terme. Les résultats vont dans le même sens. Prenons par exemple le long terme, l'étude porte sur 1 an et demi à 2 ans. Eh bien 26% des utilisateurs exclusifs de e-cigarettes vont arriver à s'arrêter complètement de fumer au bout de ce laps de temps. 17% des fumeurs de cigarettes décrocheront également, alors que seulement 13% de ceux qui sont vapo-fumeurs et font donc les deux en même temps vont arriver à se sevrer. Moralité, les doubles usagers sont ceux qui sont le plus accros au tabac. Mais il y a pire, explique le cardiologue Daniel Thomas du Comité national contre le tabagisme. Même si on a l'impression de diminuer les risques, vapoter tout en fumant ne protège pas.
Quand on est vapo-fumeur, on a probablement autant de risques de faire un accident cardiovasculaire, pas plus de risques, mais autant de risques parce qu'on reste fumeur. Et rester fumeur, même petit fumeur, vous gardez le risque d'un fumeur.
Parce que ce n'est pas la quantité de tabac qui compte, ajoute professeur Thomas.
Vous fumez, vous êtes à risque, vous arrêtez de fumer, ce risque diminue extrêmement rapidement. Parce que la problématique, finalement, c'est la thrombose, c'est la coagulation. Et ces phénomènes de coagulation, ils sont liés aux plaquettes sanguines. Ces plaquettes sanguines, elles sont renouvelées au bout de 15 jours. Donc au bout de 15 jours, si vous n'avez pas été exposé de nouveau au tabac, eh bien, vous n'avez pas de sur-risque de faire un caillot dans vos artères coronaires.
Mais malheureusement, ceux qui vapotent tout en arrêtant complètement de fumer sont une exception. Selon le baromètre de Santé publique France 2019, la moitié des vapoteurs sont aussi des fumeurs quotidiens et seuls 1% des amateurs de e-cigarettes disent n'avoir jamais fumé.
Tara Schlegel pour France Culture. La Cinémathèque française renonce. Un dernier tango à Paris ne sera finalement pas projeté ce soir comme prévu dans le cadre d'une rétrospective consacrée à l'acteur américain Marlon Brando. Sur les réseaux sociaux, l'institution précise avoir pris cette décision dans un souci d'apaisement et face aux risques sécuritaires. L'annonce de cette séance a provoqué un tollé. Ce film sorti en 1972 comporte une scène de viol, scène tournée sans le consentement de son actrice Maria Schneider. L'actrice s'est dite brisée par cet événement. La météo, c'est un dimanche gris qui nous attend avec beaucoup de brouillard. Les températures entre 1 et 10 ce matin, 6 de moyenne cet après-midi. Et tout de suite, orthodoxie.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, une émission aujourd'hui sur Saint Sofiane d'Antime, dont la sainteté a été proclamée solennellement par l'Église de Roumanie. Pour parler de Sofiane d'Antime, nous recevons Michel Simion, essayiste, traducteur de textes théologiques et professeur d'histoire moderne et contemporaine, ainsi qu'auteur de plusieurs ouvrages qui ont trait à l'Église orthodoxe. Michel, bonjour.
Bonjour.
Vous avez signé un article sur le site Chronique du Sycomore, intitulé « Saint Sofiane d'Antime », qui est en fait un hommage à cet homme qui semble vous avoir marqué de manière indélébile.
C'est une affirmation et une question et qui est pour moi difficile parce que, même si elle est fondamentale, elle est indiscrète. Je vais essayer d'expliquer cela en deux mots, Alexis. Elle est indiscrète parce que moi j'ai connu le père Sofiane, Saint Sofiane aujourd'hui, uniquement lors de mes confessions dans les années 1970. Je l'ai connu en tant que confesseur. Je n'ai pas eu de conversation avec lui en dehors des confessions, mais qui parfois duraient très longtemps. Je vais essayer de répondre en deux mots sans trahir le secret d'une confession. Pourquoi il m'a marqué d'une manière indélébile? Eh bien, parce que après avoir quitté la Roumanie et après l'avoir quitté, donc je l'ai plus jamais revu. J'étais réfugié en France et chaque fois, jusqu'à récemment, lorsque j'avais une décision importante, eh bien, il y avait une voix intérieure qui s'exprimait en moi et me disait qu'est-ce que penserait le père Sofiane, que dois-je faire? Qu'est-ce que penserait Saint Sofiane aujourd'hui, le père Sofiane? Et chaque fois que je n'ai pas tenu compte de ce qui m'était venu à l'esprit comme conseil possible, j'ai fait une bêtise. Donc, oui, il m'a marqué d'une trace indélébile. Ma vie a été marquée par ces années, mais je ne me rendais pas compte à l'époque. J'avais entre 14 et 23 ans. Pour moi, c'était mon confesseur.
On sent cet attachement que vous avez à son enseignement, si je puis dire, puisqu'à travers la confession, il vous a enseigné aussi. Quand on lit votre papier sur les chroniques du sycomore, qui est en fait un cri de votre cœur. En fait.
Oui, c'est exact. C'est quelqu'un qui a été vraiment un père spirituel et que, je pense qu'il n'y a pas de jour où, bien sûr, je l'évoque dans mes prières, mais même au-delà de cela. C'est quelque chose qui est resté. Bon, je vais dire quelques mots sur sa vie, si vous voulez.
Bien sûr.
Mais je commencerai par dire, déjà, physiquement, il était... Bon, je sais bien, on ne dit pas ça d'un moine, on ne dit pas ça d'un saint, encore moins d'un saint. Il était très beau. Il avait un visage... On trouve, pour nos auditeurs sur Internet, maintenant, des photos, bon, l'icône, mais il avait une présence qui était d'une beauté séraphique. Moi, je m'en rendais pas compte à l'époque, mais maintenant, je le revois toujours tel qu'il était. Il était dans la force de l'âge, hein. Il était, c'est pas un vieillard comme moi je l'ai connu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement pour nos auditeurs? Bon, il est né en 1912 en Bessarabie à l'époque, qui deviendra la Moldavie. Son nom de baptême, c'est Sergueï. Vous voyez, on conserve la première lettre lorsqu'il deviendra moine. Il s'appellera Sofiane. Premier drame dans sa vie qui est important, 1940, le pacte Ribbentrop-Molotov. La Bessarabie est envahie par l'Union soviétique et elle ne fait plus partie de la Roumanie. Elle devient une république socialiste intégrée à l'Union soviétique. Donc, beaucoup de nombreux Roumains réfugiés, parmi lesquels Sergueï, qui se réfugie à Bucarest. Il fait d'abord une faculté de beaux-arts où il finit avec une thèse, le visage du Christ dans l'iconographie. Il est iconographe. Et puis, il va devenir hiéromoine très rapidement à Antim, qui est le seul monastère de Bucarest et qui est toujours en activité pour ceux qui se rendent à Bucarest. Il faut le voir, c'est le seul monastère à l'intérieur de la ville, Antim.
Hiéromoine, il faut dire, c'est un moine qui est aussi prêtre.
Voilà. Faculté de théologie, donc moine, hiéromoine. Et puis, à partir de 1945, il y a un événement, un deuxième tournant dans sa vie, si je puis dire. L'arrivée des troupes soviétiques en Roumanie, le destin quelque part qui le poursuit. Il avait fui cela, il se retrouve avec ça quelques années plus tard. Et puis, dans le monastère d'Antim, apparaît un type qui est un moine, qui s'appelle Ivan Koulougin, qui est un Russe, qui était le confesseur du mitropolite de Kiev et qui est réfugié en Roumanie, plus ou moins caché à Antim, et qui est une figure qui a marqué énormément la vie spirituelle des moines de ce monastère. Il organise une espèce de soirée religieuse, mais culturelle aussi, parce que c'était ouvert à des laïcs, une fois par semaine, appelée le Buisson Ardent. Alors, qu'est-ce que c'est le buisson ardent? Bien sûr, on connaît dans la Bible le buisson ardent de Moïse. On sait qu'il signifie beaucoup de choses dans l'orthodoxie, qu'il représente aussi la Vierge Marie. Mais, en l'occurrence, ces réunions dites du buisson ardent, qui avaient lieu une fois par semaine, les jeudis, dans l'après-midi à Antim, eh bien, ça représente d'une manière, symbolise d'une manière mystique, la prière incessante, la prière de Jésus. Et donc, autour de cela, des moines, des prêtres, le père Sofiane s'exprime, mais aussi des laïcs. Quels étaient les thèmes? Bon, on le sait aujourd'hui, l'isicasme, Jésus le Logos incarné, la scène et l'autel, l'exégèse du figuier maudit. Bon, voilà. Tout cela est considéré comme une conspiration anticommuniste. Et subversive, organisation subversive, ils sont tous arrêtés, y compris et surtout le père Sofiane. Il est condamné en 1958 à 15 ans de travaux forcés. D'autres en ont pris plus, ont pris 25 ans. Parmi ses participants, bon, parmi les laïcs, mon père à moi, mais ça c'est une autre histoire, mais il y a le grand théologien roumain Dumitru Stăniloae, il fait partie de cette organisation, si je puis dire, subversive. Vous voyez, c'était très subversif de discuter de Jésus, le logo s'incarné. Bon, le père Sofiane va connaître le goulag roumain, heureusement et Dieu merci, pas pendant 15 ans, mais pendant 6 ans. Il est libéré en 1964. Il dira de cette période, il me l'a dit, parce que, bon, c'était lors des confessions, mais on prenait un peu de temps pour discuter après. J'ai eu l'insolence, j'étais très jeune et très insolent, l'insolence de lui demander comment c'était en prison. Et il m'a répondu avec un regard inoubliable. Alors là, c'était bien. Vous pouvez deviner ma stupéfaction. Il me disait, c'était bien, Mihai, bon, mon prénom en roumain, c'était bien parce qu'on avait tout le temps pour prier. Alors qu'ici, avec la responsabilité du monastère, tant de soucis, tellement peu de temps. Donc voilà sa manière de dire que, bon, c'était, non, c'était pas une souffrance, c'était une expérience finalement mystique. Après 1970, donc, il y a une période de détente en Roumanie, il devient, il est staretz à Antim, il est iconographe, il va peindre 25, restaurer complètement, peindre des églises en Roumanie, 25 églises qui ont été peintes par lui. Mais il est envoyé aussi en Syrie, où, comme iconographe, il va peindre la cathédrale de Homs, d'autres églises. Et puis, sa réputation devient, mais moi je me rendais pas compte, hein, c'était une réputation du grand confesseur, d'un grand confesseur, de quelqu'un qui... C'est vrai que lorsqu'on allait à Antim, il n'était pas le seul prêtre, hein, ils étaient 3 ou 4, mais lorsqu'on allait pour des confessions, avec lui qui confessait. Et dans les années 1972, quand moi j'ai commencé à le fréquenter, bon, je n'y allais pas tous les dimanches et les confessions étaient en général au carême de Noël, pendant le carême de Pâques, deux fois par an. C'était un peu le rythme de l'église roumaine à l'époque et c'était aussi parce que, bon, c'était relativement dangereux d'aller surtout à Antim. On savait que les autorités contrôlaient beaucoup les entrées et les sorties de ce monastère. Faudrait avoir un talent cinématographique que je n'ai pas pour raconter ce qui se passait. Moi, j'arrivais après les cours du soir de lycée ou de la faculté et c'est dans le pénombre des cierges mourants, illuminés une lumière de cierge. Vous avez une queue interminable de gens debout, il n'y avait pas des places assises, qui attendaient, mais ça, parfois, c'était des heures pour arriver devant un petit tabouret au milieu de l'église, où se tenait avec une croix dans la main le père Sofiane, Saint Sofiane aujourd'hui. Alors, cette image-là de ces gens écrasés par la misère, par les soucis quotidiens, bah, là on est dans le temps de l'avant de carême de Noël, le froid, des transports en commun invraisemblables qui, une fois ayant fini leur confession dans un silence très profond, ils sortaient de ce dialogue illuminé par l'échange qu'ils avaient dans le secret de la confession avec ce père qui se tenait là, assis sur un tabouret. Plusieurs fois, il m'est arrivé de rentrer au petit matin chez moi parce que il fallait attendre et tout le monde attendait. Je dois dire aussi que le père Sofiane confessait tout le monde. C'est-à-dire que, tu vois, si je peux utiliser une image, c'est un peu comme un chirurgien, un grand chirurgien, mais qui s'occupait d'appendicite aussi. Toutes sortes de gens venaient avec toutes sortes de problèmes, parfois très petits. Jamais je ne l'ai vu écrasé par la fatigue ou dire, bon, je prendrai pas. Il restait là jusqu'à 3h du matin s'il fallait.
Une vraie source d'inspiration et donc un homme certainement de très profond. Alors, on va faire maintenant une pause, qui est une pause en musique, mais bien sûr en prière. Et on va, bien sûr, au monastère d'Antim, à Bucarest, pour entendre cet extrait donc de la liturgie orthodoxe. Après cet extrait de la liturgie orthodoxe enregistré au monastère d'Antim à Bucarest, là même où se trouvait Saint-Sofiane d'Antime, on revient à notre entretien sur ce nouveau saint de l'Église avec Michel Simion, qui est quelqu'un qui a connu ce saint. Alors, Michel, vous avez parlé beaucoup de la manière dont le père Sofiane confessait à l'époque. Peut-être une image du peuple qui venait. Là, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de monde, etc. Est-ce qu'il y avait vraiment une interdiction? Parce que si en même temps il y avait du monde, alors, ça veut dire que c'était possible.
Non, il n'y avait pas d'interdiction formelle. Mais ça dépendait un peu qui vous étiez. Si jamais vous occupiez une place importante dans la société roumaine, et on vous voyait entrer en général dans une église, mais en particulier dans le monastère d'Antime, vous étiez catalogué, vous pouviez avoir des difficultés importantes, perdre votre travail, etc. Donc, moi, j'ai vu là-bas des gens qui étaient des gens très simples. Ça posait pas trop de problèmes à l'époque. À l'époque. Plus tard, les choses sont dégradées, je m'en expliquais. Mais aussi des gens qui étaient vraisemblablement de hauts fonctionnaires et qui, par mauvaise conscience, par... Qu'est-ce qui se passait dans leur âme, je ne pouvais pas savoir. Et eux, ils prenaient un risque sérieux. À propos de risque, maintenant, c'est peut-être le moment, je vais dire quelque chose. Moi, quand je suis parti en 1980, quand j'ai quitté la Roumanie, j'ai eu un problème, un débat. Je savais que je n'allais pas rentrer. Je savais que j'allais demander la protection des autorités françaises. J'allais devenir réfugié politique. Le problème, c'était, est-ce que je le dis au père Sofiane et je lui demande sa bénédiction? Alors, vous allez me dire, bon, pourquoi ne pas lui dire? C'est dans le secret d'une confession. Oui, mais il était tout le temps interrogé par la police, il était tout le temps surveillé, il était sous haute surveillance. Et je savais que ça allait déclencher un scandale, mon départ. Et j'ai eu peur que, interrogé sur moi et sur mon départ, il allait peut-être céder ou il allait avoir des... Comme ça, si je lui dis pas... Mais écoutez, je sais pas, il m'en a jamais parlé. Et donc j'ai pris sur moi de partir sans sa bénédiction, ça m'en a coûté. J'aurais bien voulu avoir sa bénédiction, mais je lui ai pas dit. En revanche, j'avais demandé à mon père d'aller le voir quelque temps après et de lui dire que j'ai fait ce pas et que je regrette de ne pas lui avoir demandé sa bénédiction. Papa l'a fait et il m'a raconté plus tard en France que le père Sofiane l'a interrompu tout de suite et lui a dit « Ah !» Le petit Mihai, Michel, est devenu parisien. Je vais prier pour lui. J'ai pas besoin de plus de détails. Voilà un tout petit peu ce genre de réaction. Il n'a pas demandé le moindre détail dans quelles conditions. Bon. Donc voilà, c'était une foule bigarrée pour revenir à votre question. C'est toutes sortes de gens. Et j'ai jamais compris pourquoi dans ce monastère, il y avait 3-4 confesseurs, je pensais c'est dommage pour eux, mais tout le monde venait pour voir le père Sofiane. Moi, je ne me rendais pas compte. Hein, bon. Je dois dire aussi quelque chose, c'est que à cette période-là, pour donner une idée, bon, je ne peux pas dévoiler des dialogues qui ont eu lieu pendant la confession. Bon, je continuais parfois la discussion après, un tout petit peu, il n'avait pas beaucoup de temps évidemment. Et j'étais, vers la fin des années 70, le régime communiste est devenu à nouveau très dur en Roumanie. Et ils avaient commencé, Ceaușescu avait commencé la destruction des églises orthodoxes. Donc Bucarest, bon, la moitié des églises ont été laminées. Ça avait commencé donc. Et moi, j'étais très enthousiasmé par ce qui se passait en Pologne, par les jeunes catholiques polonais, par Lech Walesa, par tout ce mouvement de révolte. Et je constatais que l'église roumaine ne disait rien, ne faisait rien. Et donc, une fois de plus insolent, j'ai demandé au père Sofiane, « Mon père, on ne peut pas assister en silence à la destruction avec le bulldozer des églises. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment lutter contre cela ?» Et avec un regard inoubliable, il m'a dit, « Non, 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 il ne faut rien faire, il faut prier pour eux. » J'avais 16 ans, je voulais changer le monde, j'ai dit, « Comment ça prier pour ?» Et puis il m'a dit, « Je ne dis pas cela pour eux, je le dis pour toi. » Michel, Mihai, parce que en priant pour eux, tu vas apprendre ce que c'est l'humilité chrétienne et orthodoxe. Ce qu'il voulait dire, c'est que pour ton bien à toi, il faut que tu fasses l'effort de prier pour ces cannibales. Sur le coup, je n'avais pas compris. Je m'étais dit, bon, ça doit être une formule monastique. Bon. C'était ce genre de personnage très paradoxal. Je devrais dire encore une chose concernant les confessions, sans entrer dans ce détail. Il était très sévère. Je veux dire, plus d'une fois, ça se dit épitimie en français, je crois que ça se dit, hein, ça vient de grec. Bon, avec tu ne vas pas communier tout de suite, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, il y aura un certain nombre de prières, etc. Et ça pouvait être long. Donc, c'était quelqu'un de très bon, de très généreux, mais il y avait des choses avec lesquelles il ne plaisantait pas.
Alors, les épithymies, c'est des sanctions spirituelles hein, qui voilà. peuvent être imposées.
Je savais, c'est le mot
si
que je disais en
français. Le père spirituel le pense, c'est toujours dans un projet sotériologique, comme on dit, toujours pour aider la personne, évidemment, à se corriger elle-même. Alors, ce qu'il y a de, j'allais dire, de merveilleux dans son histoire, c'est sa fin aussi, hein, sa
oui.
mort.
Alors, il faut dire, effectivement, il est mort assez âgé en 2002, donc 90 ans. Il est mort en 2002, mais il est mort, il est starez antim, toujours. Bon, très âgé, on me l'a dit par des témoignages, mais il participe à la Divine Liturgie. C'est une grande fête orthodoxe, le 14 septembre, c'est le jour de la Divine Croix, de l'exaltation de la croix. Et il est mort dans l'autel pendant la Divine Liturgie. Et donc, ce jour-là, à Antim, on a prié deux fois. Au début, puisque c'est dans les prières pour le starets, pour le patron, si vous voulez, de l'Église, et à la fin, dans les prières pour les défunts. La liturgie ne s'est pas interrompue, mais il était inanimé, et donc à la fin, on a prié pour lui, en tant que défunt. Moi, bon, je voudrais dire que ce jour-là, je pense qu'il a retrouver tout de suite ce qu'il a cherché toute sa vie, c'est-à-dire le visage du Christ.
Est-ce qu'il y a des témoignages de lui ? Est-ce qu'il y a des choses au-delà de ce que vous avez vous-même écrit et qui est passionnant ? Là, j'invite tous nos auditeurs d'aller lire cette page sur les chroniques du sycomore. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a en Roumanie, d'abord en Roumanie, mais aussi ailleurs, des choses qui ont été écrites, soit par lui, soit sur lui ?
Alors, en Roumanie, innombrables, parce que il a été très actif après la chute du communisme, à partir de 1989. Non que lui, il était, bon, il est jamais sorti du monastère, mais il a été interviewé. Il y a eu plein de gens qui ont fait des émissions de télévision sur lui. C'était bon, c'était une figure. Puis bon, rescapé du goulag. Donc il y a eu et il y a, on trouve sur YouTube, mais une pléthore d'émissions, d'interviews. Dont on lui demande ceci, on lui demande cela. Il avait l'air d'un touriste dans tout cela. Il regardait tout ce monde moderne qui se déchaînait avec des médias autour comme s'il était de passage. Il y en a beaucoup, on peut voir sa figure. Malheureusement, je n'ai pas vu quelque chose dans une autre langue en roumain. Et ses homélies ont été publiées en roumain. Serait-elle un jour traduite en français, je l'espère. Mais on a traduit ses homélies, ou tout au moins un extrait de ses homélies, pas toutes, dans un livre qui a beaucoup de succès. Ça faisait des années qu'on parlait de sa sanctification, de sa béatification. Moi, j'avais toujours trouvé ça à la fois naturel, un peu étrange, parce que même aujourd'hui, dire que j'ai connu quelqu'un qui est un saint, c'est à la fois très beau et en même temps, pour moi, ça reste mon starets. C'est pour moi, c'est mon confesseur.
Oui, mais il y a toujours des saints qui sont de notre époque. Il y a eu en France aussi et ailleurs. Et l'Église continue à reconnaître la sainteté de certains personnages qui sont toujours dans le monde, peut-être là, dans lequel nous sommes aujourd'hui aussi. Et ça continue toujours. Alors, deux mots aussi sur le monastère. On va finir avec ça, sur le monastère d'Antime. On a eu tout à l'heure un extrait de la liturgie célébrée dans cette église. Il est toujours vivant.
C'est un monastère très vivant. Moi, je l'ai revu lors d'un voyage assez récent en Roumanie. Il faut dire qu'il a été fondé par Antim Ivir, qui est un Géorgien au XVIIe siècle, qui vient en Roumanie comme mitropolite. Et ça a été aussi pendant le 17e, 18e, 19e siècle, une grande maison d'édition de livres théologiques.
Très bien, écoutez, Michel, merci beaucoup. Alors, on lira votre article, dont je rappelle le titre, Saint Sofiane d'Antim, tout simplement, paru dans les Chroniques du Sycomore, qui est un site orthodoxe avec plein d'articles très intéressants et passionnants comme le vôtre. Et c'est ainsi que prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation François Connac, prise de son Benjamin Vignal. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant, avec Jean-Luc Gadreau.
Bonjour, vous écoutez France Culture en ce troisième dimanche de l'Avent. Jean-Luc Gadreau avec vous pour Soleil, rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Nous continuons ce matin cette série exceptionnelle qui nous permet pendant ces quatre premiers dimanches de ce mois de décembre la rencontre avec le dramaturge, nouvelliste, romancier, réalisateur, comédien, homme de culture plus globalement, comme nous l'évoquions dans la première émission, Éric-Emmanuel Schmitt. Pour ce troisième rendez-vous, nous discuterons ensemble et avec la théologienne protestante Céline Romer sur ce choix de raconter des histoires ou possiblement l'art de la parabole. Avec nous également Vincent Smetana pour sa chronique « Toujours le mot pour dire ». Bonjour Éric-Emmanuel.
Bonjour.
Rebonjour. On est ensemble pour ces quatre dimanches, encore deux aujourd'hui et puis dimanche prochain pour une fin autour de la vie et la mort. Mais aujourd'hui, on va parler des histoires. Et puis, il y a Céline Romer. Bonjour Céline.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci beaucoup.
Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Prêt pour une nouvelle chronique ?
Ravi.
Céline Romer, quelques mots de présentation. Vous êtes ministre, comme on dit, de l'Église protestante unie de France. Vous avez exercé votre ministère en paroisse, également au service de formation à distance Théovie.
C'est vrai.
Et puis, vous êtes titulaire d'un doctorat double sceau. Là aussi, comme on dit, en théologie et en études grecques et latines classiques.
Oui.
Vous enseignez l'exégèse des textes du Nouveau Testament et le grec, et l'un de vos champs d'enseignement et de recherche, et c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous ce matin, c'est évangile et langage figuratif, récit et imaginaire. Et d'ailleurs, vous êtes aussi l'autrice de plusieurs ouvrages, mais un justement consacré aux paraboles, qu'en parlent les images, les paraboles dans l'évangile de Matthieu. C'est vers vous que j'irai donc en premier, en complément de cette présentation, avec cette question. Qu'est-ce que vous aimez, vous, particulièrement dans la parabole ?
J'aime évidemment la poésie des paraboles, j'aime l'ouverture de ce langage, j'aime toutes les possibilités qu'il offre pour se projeter, pour s'imaginer, pour se rêver et pour être transformé, pour être touché en plein cœur. J'aime évidemment toute la dimension vivante de ce langage parabolique.
Éric-Emmanuel, dans ma présentation, je rappelais vos multiples casquettes. Et parmi ces variantes en termes de création, il y a la nouvelle. Vous aimez ainsi raconter de courtes histoires qui peuvent s'apparenter le plus souvent justement à ces paraboles, pour le dire autrement, des histoires qui offrent une leçon ou une réflexion sous une forme simple et accessible. Alors on va citer quelques exemples. Il y a la rêveuse d'Ostende, évidemment le magnifique cycle de l'invisible avec ses 8 courts romans que vous avez écrits entre 1997 et 2019. Millar et pas, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Oscar et la Dame Rose, l'enfant de Noé, le sumo qui ne pouvait pas grossir, les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eus. Moi j'adore vos titres, je dois dire. Madame Pierre et le secret de Chopin, et puis enfin Félix et la source invisible. Chacun explore une spiritualité à travers le parcours initiatique d'un personnage. Qu'est-ce qui vous attire, vous, dans ce type d'écriture pour aborder des sujets à la fois spirituels et puis humains, tout simplement ?
J'aime dans le court récit le fait qu'on ne décrit jamais, on suggère toujours.
Donc déjà, c'est une façon de solliciter l'intelligence, ou plutôt l'imagination de son lecteur, et de le rendre co-auteur du livre. J'ai toujours été frappé par le fait que mon éditeur chez Albin Michel, Francis Esménard, qui est le petit-fils d'Albin Michel, qui a passé sa vie à lire, qui a maintenant plus de 80 ans, me dit toujours, c'est curieux, Éric Emmanuel, vos livres, je m'en souviens 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Mais je lui dis oui, parce que vous les avez co-écrits avec moi. Parce qu'au fond, voilà, il y a ça, et... aussi, j'aime, mais c'est comme ça que j'aime la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, j'aime aussi la simplicité du langage, parce qu'elle laisse la place à la réflexion et à l'imagination. C'est-à-dire que quand je lis les évangiles, je me dis, c'est merveilleux, ils sont poètes par dizaines de mots. Ils emploient tellement peu de mots que la concentration fait qu'il y a de la place pour l'interprétation. Et donc finalement, il y a des livres où je suis exhaustif en termes de vocabulaire. Quand j'écris La traversée des temps, forcément, j'épouse, ou quand j'écris La part de l'autre, le roman sur Hitler, j'épouse une réalité, j'écris pleine patte. Mais je dessine quand je fais un conte qui s'approche d'une parabole, parce que je veux laisser la place à l'imagination, mais surtout à l'interprétation, et faire en sorte que l'histoire ou une phrase puisse être un vade-mecum, quelque chose qu'on emmène avec soi et qui peut être répercuté dans des situations différentes et dans des esprits différents.
C'est une manière finalement, et vous l'avez déjà évoqué dimanche passé avec le respect, la tolérance, une manière d'utiliser donc l'art, la littérature en l'occurrence, pour éclairer.
Oui, parce que la force du récit par rapport à un essai philosophique, c'est justement de se servir de l'empathie et de l'émotion. Ouais. Oui, quand j'écris Monsieur Ibrahim, je crée une empathie avec le lecteur et un épicier musulman. Peut-être que je parle à des gens extrêmement racistes, mais je vais déplacer le curseur grâce à l'empathie.
Il y a une part d'humour aussi.
Et l'humour aussi, qui détend. Enfin, moi, j'aime alterner quelque chose d'émouvant avec l'humour, parce que je pense que la vie est comme ça. Et que les écrivains monocolores, je trouve que c'est des talents facilement reconnaissables, mais qu'on fréquente pas longtemps. Je trouve que vaut mieux avoir toutes les couleurs de la vie. Et l'empathie est un moteur puissant, et ensuite l'émotion est un moteur puissant, parce que on peut déplacer les frontières intérieures d'un esprit par l'émotion. J'ai vu par exemple des pères totalement homophobes, tout d'un coup découvrant la réalité de leur fille ou de leur fils. Sont tellement émus qu'ils veulent le bonheur de leur enfant, et ils reviennent à ce fondamental du bonheur de leur enfant, même si c'est sur un modèle qui ne leur plaît pas. Donc c'est l'empathie, c'est l'émotion, c'est l'attachement, c'est le sentiment qui permet d'en finir avec un préjugé, d'en finir avec une idéologie fermée.
Céline Romer, ce langage parabolique et la reconnaissance du besoin de fiction, c'est pour vous quelque chose d'absolument nécessaire pour dire la vérité de l'Évangile ?
C'est nécessaire parce que je crois qu'on a besoin de la fiction pour non pas capter la vérité, au contraire, puisque voilà, en christianisme, notre vérité, il se trouve que c'est vivant, c'est quelqu'un.
Et on met des guillemets, bien sûr, à ce mot vérité.
Oui, absolument. Et donc c'est quelque chose, c'est de l'ordre de l'expérience. Ouais. Et le langage parabolique est une offre d'expérimentation. Et c'est une offre d'expérience. Donc c'est éminemment généreux, dans le sens où il n'y a pas de parabole sans faire un bout de chemin ensemble. Ça nécessite la connivence de l'auditeur, une parabole qui n'est pas écoutée ou avec laquelle on n'a pas envie de jouer ou dans laquelle on n'a pas envie de rentrer, tombe à l'eau comme un livre qu'on referme et le livre est mort. La parabole s'offre véritablement à la vie. Elle ne fonctionne que si vous êtes au moins deux à la faire fonctionner. Et tout ça pour aller explorer, oui, dans les sentiments, dans les recoins de l'intelligence. L'humour aussi est une forme de connivence. Il y a des paraboles bibliques qui sont pleines d'humour.
Ah oui, moi je trouve.
Quand les paraboles se retournent contre les locuteurs et que ça permet de découvrir tout un pan de soi et de la vérité de soi, je pense à la fameuse parabole, alors là je sors de mon champ, mais entre Nathan et le roi David, et quand David entend la parabole de Nathan, et Nathan lui dit, mais cet homme si terrible que je viens de décrire dans mon histoire, c'est toi David. Et David réalise tout d'un coup l'horreur de ses actes. Voilà, c'est ça que permet la parabole. Et je suis très touchée d'entendre ce que vous venez de dire, Éric Emmanuel Schmitt, parce que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il n'y a que Jésus qui parle en parabole. Il n'y a aucun autre personnage à qui on fait parler en parabole. Les apôtres, on leur fait pourrait faire plein de trucs que Jésus a fait, mais la parabole, c'est intouchable. C'est vraiment Jésus qui est le grand paraboliste. Et il parle en parabole avec tout le monde, avec ses disciples, avec les foules, avec les autorités, avec les autorités religieuses, avec les autorités politiques. Et voilà quelqu'un qui cherche justement à faire entendre quelque chose et avec une générosité, et je dirais même avec un amour extraordinaire.
Oui, parce que la parabole appartient à celui qui l'écoute.
C'est ça.
Immédiatement.
Alors, on va revenir sur tout ça, mais bien sûr, on va donner la parole à notre chroniqueur, Vincent Smetana, pour sa chronique « Toujours le mot pour dire », sur lequel, justement, vous pencherez-vous ce matin, plutôt le verbe raconter ou la parabole ?
Ah, mais écoutez, je vais prendre les deux, hein, car le bon raconteur saura faire un usage savoureux du langage figuratif. Donc, concentrons-nous 2 ou 3 minutes, si vous voulez bien. Langage figuratif, forme de langage utilisée à la fois dans la prose et la poésie pour créer des couches de signification auxquelles le lecteur accède à travers les sens. Donc, tout ce qui en moi, en nous, réveille mémoire, sensation, impression, émotion, usage de la parabole comme petit imagier de ma pensée et ses dispositifs sensuels et sonores, c'est-à-dire le rythme des mots, leur origine, leur mouvement, leur destination, leur respiration. Car la merveille est là où l'auteur invite et emporte soudain celle ou celui qui lit ou qui écoute plus profondément dans le cœur de sa parole sans qu'il ne faille taper sur le clou. Ah tiens, taper sur le clou, c'est du langage figuratif ça ? Ah non, c'est du langage métaphorique, restez concentrés. Bon alors j'y vais, chers amis, et vous Céline, est-ce un poignard que je vois devant moi, le manche vers ma main ? Viens que je t'empoigne, tu m'échappes et pourtant je te vois encore. N'es-tu pas vision fatale, sensible au toucher comme à la vue ? Ou n'es-tu qu'un poignard de l'esprit, la création trompeuse d'un cerveau oppressé par la fièvre ? C'est pas mal, hein ? Génial Shakespeare, dans l'exploration fulgurante du langage figuratif, comme territoire d'une parole qui invite à habiter les mots avec esprit et émotion, plutôt que de simplement comprendre, disons, théoriquement ou factuellement une histoire ou une fable ou un poème ou un simple récit ou un simple verset, tiens, chemin faisant, parabole du semeur sorti semé, parabole de la graine qui pousse toute seule, de la perle et celle du visiteur, parabole de la ramèreur qui n'arrive jamais à l'heure, parabole des 10 enfants que je n'ai jamais eus, parabole de la pizza sans ananas, parabole de l'ours qui voulait être heureux et aussi parabole des ouvriers malheureux, des talents et parabole du grand souper. Vous voyez, je pourrais dérouler sans tarir le menu dans le seul but enthousiaste et magnifique d'ouvrir par allégorie l'appétit et de notre imaginaire et de notre esprit, car c'est bien ça dont il s'agit, toucher à la vivacité délicieuse de la parole quand elle est imagée, parabolique, métaphorique ou symbolique. Parabole, du latin parabola, du grec ancien parabolé, pour comparaison, rapprochement et rencontre. Langage qui saisit un objet, une image, un mot écrit, un son, voire un être vivant, je ne sais pas, un ours, une dame rose, des perroquets sur une place, une graine tombée dans les ronces, une huître de marraine, un pâton à pizza, ou toute autre forme reconnaissable, en faisant lien par pur élan de créativité à un ensemble de mots d'où jaillit alors un chemin d'oralité, de parole ou de pensée, juste par association, digression, écho ou ressemblance. Non mais c'est fascinant quand même. Moi je vous le dis maintenant, plus tard je serai un enfant, et pour rien au monde je ne veux manquer mon unique matinée de printemps. Je le dis, j'arpenterai le territoire du langage avec audace, verve, fougue et créativité. Donc alors, parabole, métaphore, symbole, périphrase. Allez, dernier essai. Le roi s'endort et on dessoude le dauphin. Jolie manière, mais attention, hein, j'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. Je vous le dis, l'aigle va fondre sur la vieille buse. Hey, c'est chouette hein, ça, Vincent, comme métaphore, vous dites-vous. Sauf que ça n'est pas une métaphore,
c'est une périphrase.
Oh Vincent, ne faites pas chier. Hein. Ah, ça c'est une métaphore. Voyez, génial Audiard ici, génial Shakespeare là-bas et génial Jésus là-bas et ici toujours, qui ne manque jamais une occasion d'insuffler à sa parole ça, tout ça, le mouvement, la fougue, l'audace et le voyage, le déplacement du vivant dans le langage pour maintenant, dès maintenant et les prochains 1001 jours encore, nous ouvrir chacune, chacun à la splendeur inouïe de sa parole de vie qui aiguise jour à jour notre assentiment au réel. Et là, je ne dis pas ça au figuré, hein, bien sûr. Ah non, ah non.
Quel envolé, il faut être belge.
Il faut être belge pour écrire comme ça, je veux dire, avec de la fantaisie, de la poésie, du coq à l'âne. J'adore l'esprit belge.
Et puis, dire quel envolé, c'est à la fois une métaphore et une façon de vous féliciter, Vincent.
Merci, je prends.
Éric Emmanuel, les paraboles ont une longue tradition dans les écrits philosophiques et religieux, dans la Bible en particulier, on l'a évoqué. Vincent en a évoqué un certain nombre, il en a même inventé également. Est-ce que dans les paraboles de la Bible, certaines vous ont marqué plus que d'autres, peut-être même influencé? Est-ce qu'il y a un souvenir, quelque chose là?
Oh, ouais, le jugement de Salomon, bien sûr. C'est tellement fort.
C'est vrai que l'on peut voir ce jugement de Salomon comme une parabole aussi.
Ouais, bah oui, parce que c'est mimer la cruauté pour faire en sorte que la vraie mère se déclare, la vraie mère de l'enfant que Salomon prétend tuer. Parce que je ne crois pas du tout à la vérité de cette histoire. Je pense que c'est un enseignement. C'est une chose qui m'a bouleversé. Mais moi, j'ai une lecture, mais ce que j'aime dans la Bible, c'est que c'est un livre que nous sommes forcés de continuer à écrire. Oui. Parce que il y a suffisamment. C'est là une écriture très claire et complètement obscure. Et elle nous laisse une place incroyable. Mm-hmm. Parce que la clarté des mots fait que tout nous arrive dans le cerveau. Et en même temps, l'obscurité ou la place laissée à des interprétations, à des multiples couches de sens. C'est pour ça que la Bible parle à tous les âges et qu'on la fait parler différemment. Ce dimanche, je réfléchissais à un texte du Nouvel Évangile. C'est que dans Marc, quand on annonce la fin des temps, aujourd'hui, les gens font une lecture écologique de cette annonce de la fin des temps. C'est faux, mais pourquoi pas? C'est une manière tout d'un coup de projeter quelque chose sur le présent, une angoisse du présent, et se dire comment répondre à cette angoisse du présent, et bien peut-être, à cette angoisse de l'avenir, qu'est l'anxiété écologique, et bien il y a tout d'un coup une réponse comme ça dans les évangiles, qui dit, mais concentrez-vous sur le présent, soyez attentifs, soyez vigilants, et peut-être la porte s'ouvre.
Oui, ce sont des textes qui lisent l'existence, ça nous est tendu comme des miroirs.
C'est ça.
Et à chaque fois qu'on s'y plonge ou qu'on s'y penche, effectivement on se lit, on se découvre, et ça donne à réfléchir, à penser, etc. Oui, il y a toujours quelque chose à prendre.
Je vous propose d'écouter une parabole des évangiles. J'ai été dans le livre de Matthieu pour vous, Céline Romer, Matthieu 13. On va écouter cette fameuse histoire d'un semeur parti un jour pour semer.
Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses.
Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Alors personnellement, moi j'aime cette liberté offerte avec les paraboles, c'est ce que vous disiez Éric Emmanuel, cette phrase d'ailleurs, que celui qui a des oreilles entende, qui ouvre. C'est un peu comme les fins ouvertes au cinéma, moi j'adore ça, j'aime pas quand on me dicte finalement une fin, une histoire qui se termine et puis il y a plus rien derrière. Moi j'aime bien l'imaginaire qui
arrive. C'est-à-dire on propose à l'autre de produire du sens lui-même. On s'adresse à un esprit, on réveille l'esprit et on réactive l'esprit.
C'est de la dynamique, c'est du langage dynamique. Voilà, c'est exactement ça. Ça ne se fait pas sans l'autre et c'est créatif. Hein, et ça en appelle à la créativité de chacun.
Vous évoquiez d'ailleurs aussi une dimension poétique, hein,
Ah oui, ça j'y tiens particulièrement parce que Jésus est un poète, évidemment, ouais. C'est un immense poète. Et la parabole que nous venons d'entendre, c'est d'abord, c'est une parabole tout à fait spéciale. C'est une parabole qui me bouleverse à chaque fois parce que vous savez que c'est toujours la première parabole qui inaugure les discours en parabole dans les trois évangiles, chez Matthieu, chez Marc et chez Luc. Cette parabole, elle a quelque chose de spécial, elle est programmatique, hein. Dans l'évangile de Marc, Jésus rajoute même, si vous ne comprenez pas cette parabole, vous ne pourrez pas comprendre toutes les autres paraboles. Donc, la parabole du semeur, il se joue là quelque chose de spécial. Et vraiment, cette image d'une semence jetée en terre qui pourrait être tout à fait nous aussi. Enfin, nous sommes ce terrain, nous sommes ce terreau. Et voilà pourquoi d'ailleurs on peut lire les paraboles à tous les âges, parce que tantôt nous sommes ronces, tantôt nous sommes pierrailles, voilà, et nous sommes tout ça à la fois. Donc cette parabole, elle a quelque chose de mystérieux. C'est la parabole à laquelle il faut sans cesse revenir pour en lire d'autres.
Ouais, c'est très, très, très intéressant. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup dans les paraboles, c'est la possibilité de mettre quelque chose d'improbable, qui va même contre la logique, un moment dans l'histoire, et c'est valable aussi, je trouve, dans pas mal de vos récits. On peut se permettre quelque chose qui ne fonctionnerait pas forcément dans la vraie vie, de l'improbabilité, pour finalement attirer l'attention, oui, aller ailleurs.
Dire quelque chose.
Oui, ben, typiquement, ce semeur qui sème, il n'est pas très intelligent, il sème n'importe où, il va perdre de la semence, mais c'est ça qui fait l'intérêt, sinon il n'y a pas d'histoire.
Oui, il y a toujours un hiatus avec l'ordinaire.
C'est ça. Hein.
La parabole peut tout se permettre, on rentre dans la fiction, et c'est tout l'intérêt de la parabole, c'est que tout est possible, tout est imaginable, on peut être conduit partout, et c'est vraiment un langage, c'est ce seul langage qui permet,
ça. Ce qui est beau dans la parabole, c'est qu'elle ne se donne pas comme une vérité, elle se donne comme un dynamisme qui peut permettre éventuellement à l'autre d'arriver à une vérité sur lui ou sur le monde.
Comme un travail, je dirais, de caricaturisme. Moi, j'aime bien comparer ça avec les caricaturistes, c'est pour ça qu'ils nous sont si précieux d'ailleurs, c'est qu'on peut se permettre dans la parabole de grossir les traits, de forcer pour faire voir les choses. Et sans ça, on ne peut pas voir. Si on ne vient pas nous montrer les choses, on ne peut pas les voir. Et donc dans la parabole, bah voilà, on peut grossir les traits, on peut s'amuser, on peut faire un semeur qui sème n'importe comment à tout vent et abondamment dans la surabondance, mais comment faire entendre autrement à quel point Dieu sème sa parole.
C'est comme ce patron qui vient embaucher des ouvriers une heure avant la fin.
Ça, c'est extraordinaire, ça c'est absolument merveilleux, mais ça c'est tout aussi le pouvoir, je dirais, de contestation du monde, du langage parabolique.
Oui.
C'est subversif, c'est-à-dire qu'on vient non pas dénoncer, mais pointer, regardez donc comment vous vivez, regardez de quelle justice vous vivez, la justice de Dieu c'est autre chose.
On retrouve l'empathie que vous évoquiez aussi et que vous essayez de mettre dans vos histoires. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de parler donc de vos nouvelles comme de parabole.
Ah non, mais je l'assume totalement,
vous l'assumez,
parce que moi le caractère de parabole ou de fable, par exemple, vous évoquez les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eus, chacun de ces enfants est qu'elle invente, puisque...
Oui, c'est ça.
En Chine, on ne peut pas avoir 10 enfants. Enfin... Et est une vision parabolique sur la vie. Chaque enfant nous raconte une façon d'habiter l'existence, mais évidemment, c'est outré, c'est une œuvre de fabuliste, mais parce que la fable est une façon d'offrir la possibilité de réfléchir à l'autre, mais en respectant sa liberté infinie.
Vous parliez de caricatures, de courtes histoires. Il y a forcément besoin d'une économie narrative aussi pour raconter les histoires de cette façon-là.
Pas de mots en trop.
Oui.
Je crois que c'est le propre de l'écriture parabolique, c'est vraiment une économie de mots.
Comment vous travaillez-vous en tant qu'auteur cette concision, tout en gardant quand même la profondeur de sens? Parce que le risque, ce serait aussi de passer à côté.
J'ai fait du latin. Et donc, quand on a fait du latin, mais à haute dose, je suis rentré à Normale Sup en lettres classiques, donc latin et grec. Le grec me pousserait à écrire comme Proust, le latin me pousse à écrire comme j'écris, c'est-à-dire avec énormément de concision. Risquer que ça soit clair jusqu'à l'obscur. Contracté. Très contracté. Et plus c'est contracté, plus il y a de l'espace pour l'autre.
Alors, je viens au secours des Grecs, quand même, parce que je ne peux pas laisser passer ça. Mais bien sûr, je vous comprends pour le latin. Mais les Grecs écrivaient aussi des paraboles. Vous avez entièrement raison sur le style. Mais le grec permet ça. Vous avez parlé tout à l'heure de la semence qui pousse toute seule. C'est la parabole la plus brève qu'on a dans le Nouveau Testament. Une phrase. quelques verbes et une immensité de représentations sur la confiance et l'abandon en la grâce de Dieu.
Et puis surtout, ce qui est beau dans toutes les paroles des évangiles et de Jésus, c'est que c'est toujours, c'est souvent un monde pastoral, c'est souvent,
Il parle de ce que les gens connaissent.
Agricole. Ça parle simple à absolument tout le monde.
Mais oui, c'est ça. Jésus se met à la portée, en fait, de tous ceux qui sont là autour de lui.
Parce que c'est l'autre qu'il veut rencontrer et c'est l'autre qu'il vient rencontrer. Et donc évidemment, on rentre dans nos images, dans nos fictions, dans nos représentations, ce sont nos systèmes de langage. Il y a aussi des paraboles très amusantes, alors peut-être un peu plus citadines du côté de chez Luc, qu'on a malheureusement très souvent moralisées et on les a justement verrouillées, un peu enfermées. Il faudrait un peu les aider à sortir des carcans dans lesquels 2000 ans de christianisme les ont enfermées. Mais dans ces paraboles-là, un peu plus citadines, donc les paraboles lucaniennes, on parle aussi beaucoup d'argent, d'économie, il y a aussi des systèmes. Voilà. Et ça, évidemment, ça parle à tout le monde.
Non, mais la force de Jésus, c'est qu'il n'a pas fait de théologie.
Alors, Céline ?
Non, ah bah, ça, je ne peux que acquiescer à ça. Je ne peux que acquiescer. Non, la théologie, c'est le meilleur moyen de revenir justement au souffle vivant de la parabole. Non, il y a un temps pour observer les choses et puis il y a un temps pour les déguster, en profiter et en vivre.
Alors, vous savez que nous sommes le troisième dimanche de l'Avent, présenté comme le dimanche de la joie. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche, c'est ce qui se dit dans ce troisième dimanche de l'Avent. Il y a souvent une certaine joie au final de pas mal des paraboles des évangiles, ou du moins une espérance qui conduit vers la joie.
Ah non, il y a une joie.
Profonde.
Ah, il y a une joie profonde. Oui. C'est même un mot extrêmement important. Et penser au trésor qu'on trouve et auquel on ne s'attendait pas, c'est la joie et c'est la joie véritable. Et
le fils prodigue, la brebis, le drachme.
Absolument, les choses perdues, retrouvées. Ouais. Et puis cette joie qui, alors on parlait de l'évangile de Matthieu tout à l'heure, et puis la parabole du trésor justement est en Matthieu 13. Ouais. Cette joie chez Matthieu, elle se retrouve à deux endroits déterminants. Au tout début, avec les mages qui reconnaissent l'enfant. Et là, ils éprouvent une joie profonde, nous dit-on. Et cette joie profonde, on ne la retrouvera qu'au tombeau vide, quand les femmes découvriront un tombeau et qu'un ange va les inviter à reprendre le chemin de leur vie. Donc vous voyez, ce n'est pas une joie facile de clinquant, c'est une joie vraiment reçue qui transforme la vie et qui fait changer de route même, qui convertit en réalité.
Parce que la joie, c'est le rapport au plein, alors que la tristesse, c'est le rapport au vide. Ouais. On peut regarder sa vie sous les deux modes, sous le mode de la joie et sous le mode de la tristesse. Si on la regarde sous le mode de la tristesse, on regarde que ce qui nous manque. Alors il nous manque toujours quelque chose, il nous manque du temps, des êtres qu'on a aimés, des êtres qui sont partis, de l'argent, de la puissance, enfin, il nous manque toujours quelque chose. Mais vous regardez la même vie sous le mode de la joie, et non pas ce qui vous manque, mais ce qui est, vous réjouissez d'être, vous réjouissez d'être avec les êtres avec lesquels vous êtes, vous vous réjouissez d'avoir ce que vous avez, etc. Donc c'est cultiver la joie, ce qui est tout le contraire de ce que fait notre époque, parce que l'intelligence passe pour la culture du manque. On est vraiment dans une période comme ça. Cultiver la joie, c'est toute la leçon, je trouve, des évangiles, et c'est un vrai chemin de vie.
Eh bien, je me suis réjoui d'être avec vous trois ce matin. Éric Emmanuel Schmitt, Céline Romer, Vincent Smetana, merci à vous trois. On se quitte pour aujourd'hui, mais rendez-vous dimanche prochain pour une dernière sur Culture. Nous serons le 22 décembre, à quelques jours de Noël, où l'on fête une naissance particulière marquée dès son commencement par la mort. Alors nous parlerons de vie et de mort avec vous, Éric Emmanuel, et puis avec vous, Vincent, et avec Jonathan Hanley, que je vous présenterai dimanche prochain. Comme une évidence, toujours pour que nous puissions terminer cette émission, un peu dans l'esprit des deux dernières fois, c'était Chopin, Mozart, naturellement, Beethoven, aujourd'hui, en écho à votre livre au titre délicieux que Vincent évoquait dimanche dernier dans sa chronique « Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent », extrait du CD qui accompagne le livre, là encore, comme une évidence, l'ode à la joie, c'est-à-dire plus précisément un extrait de la symphonie numéro 9 en ré mineur avec le Philharmonia Orchestra sous la direction de Wilhelm Furtwängler et les chœurs du Festival de Lucerne. C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Philippe Thibault à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org, à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Ce matin sur France 2, de 10h à 10h30 dans Présence protestante, rediffusion du magazine Écriture présenté par Marion Muller-Collard sur le thème de la prière avec Yves Oltramar. Pour le moment, sur France Culture, à suivre les informations, puis Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin. Excellent et, je l'espère, joyeux dimanche à chacune et chacun.
Vous êtes bien sur France Culture.
Un engrenage sans fin au Proche-Orient.
Hervé Gardette.
Chute spectaculaire du régime syrien de Bachar al-Assad après une offensive éclair d'à peine 12 jours. La région n'en finit plus d'être reconfigurée par les conséquences de l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël. Avec quelles conséquences? Nous en débattrons ce dimanche avec Jean-François Colosimo, Sylvie Kaufmann, François Jemaine et Farid Vaïd.
L'Esprit public, ce dimanche à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Les éditions Radio France présentent
« Quand les dieux rôdaient sur la terre ».
Un livre de Pierre Judet de la Combe.
Découvrez l'origine divine du monde. Qui sont Zeus, Athéna ou Apollon? Ces êtres extraordinaires qui peuplent les océans, la terre et ses abîmes.
Plongez dans un imaginaire merveilleux où ces puissances invisibles descendent parfois de l'Olympe pour surgir dans la vie des hommes.
« Quand les dieux rôdaient sur la terre ».
De Pierre Judet de la Combe, un livre France Inter.